Et nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Et nous lisons ce matin les versets 7 à 13. Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous avons déjà vu dans cette série les messages que le Seigneur Jésus-Christ adresse aux différentes églises d'Asie mineure, que chaque message nous présente le Seigneur Jésus, premier mot sur la feuille, d'une manière adaptée à chaque église. Certaines églises, nous avons vu, font face à la persécution. D'autres doivent affronter ou faire face à un faux enseignement. Et à chacune de ces églises, le Seigneur Jésus se révèle d'une manière adaptée à la situation, adaptée à l'église, afin que l'église soit éblouie par lui, qu'elle soit aussi rendue capable de surmonter l'épreuve. Et dans ce sixième message, message qui est adressé à l'église de Philadelphie, le Seigneur Jésus se présente à l'église en rappelant à l'église son devoir de répandre l'évangile. Et il se présente d'une manière adaptée. Nous lisons cela au verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. » Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Le premier point donc, la présentation du Seigneur Jésus à l'Église. Il se présente comme le Saint, deuxième mot sur la feuille. Il est séparé de tout homme, il est pur, sa justice est parfaite. Capte l'attention de l'Église en soulignant cette réalité, comme l'Éternel avait attiré l'attention de Moïse par le buisson ardent, en lui disant le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, Exode 3. Il est saint, il est aussi le véritable, il est la vérité. Contrairement à ce qu'il va dire au sujet des Juifs qui ne le sont pas et qui mentent. Il est la vérité. Mais ce qui ressort le plus, c'est cette description qu'il fait de lui comme étant celui qui a la clé de David. Troisième mot sur la feuille. Celui qui a la clé, nous le savons, c'est celui qui a le contrôle sur l'accès, les entrées et les venues. Si nous nous étions présentés devant la maison, la porte était fermée à clé, on n'aurait pas pu rentrer. Il aurait fallu attendre celui qui a la clé, ou celle qui a la clé, dans ce cas, hein, et qui ouvre la porte pour nous laisser entrer. Celui qui a la clé a l'autorité. On a déjà vu cette expression, rappelez-vous, au chapitre 1er et au verset 18, où Jésus dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est-à-dire qu'il a le contrôle, c'est-à-dire qu'il les a vaincus. Il contrôle ceux qui entrent dans la vie éternelle. Et ici, il parle du royaume, il parle du salut, du royaume de Dieu, sur lequel il règne en tant que celui qui est la postérité de David. Jésus a la clé de la maison de Dieu. C'est lui seul qui peut accorder les bénédictions de l'Alliance. Et ce verset 7 nous renvoie à un événement qui s'est déroulé dans le livre d'Ésaïe. En Ésaïe chapitre 22, on lit qu'il y a un roi infidèle qui régnait sur le royaume de Juda. Son nom était Shebna. Et Dieu va corriger ce roi, il va l'enlever du trône et il va placer un roi qui est fidèle, un serviteur qui est fidèle du nom d'Eliakim. Et au verset 22 de Ésaïe 22, on lit ceci. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. » On retrouve ces paroles dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3. C'est une image du Seigneur Jésus, celui qui garde, celui qui donne accès aux bénédictions du salut, aux bénédictions de l'Alliance, aux bénédictions de la grâce de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il ouvre la porte, ces bénédictions sont accessibles. S'il ferme la porte, ces bénédictions ne sont plus accessibles. Il y a deux choses à souligner ici au sujet de cette déclaration. Tout d'abord, le plus important, c'est le plan général, c'est que le salut, nous le savons, nous le disons, mais c'est bien de le répéter, le salut, quatrième mot sur la feuille, ne vient que par le Seigneur Jésus-Christ. Il est la postérité de David. Il tient les clés du royaume du salut. Il l'a dit à plusieurs reprises. Jean 10, par exemple, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et puis il y a ce verset en Jean 14, verset 9, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et cet enseignement aura été particulièrement important pour les chrétiens ici à Philadelphie. On va voir qu'ils vont rencontrer l'opposition de la communauté juive qui reniait le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit, ce qui compte réellement, c'est moi. C'est par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, l'union à Christ, que le chemin, la porte est ouverte au royaume de Dieu. Il a ouvert cette porte par son œuvre sur la croix. Et cette porte est encore ouverte aujourd'hui. Mais deuxièmement, si cela est vrai sur le plan général, il y a aussi une vérité au niveau local. C'est que si Jésus tient les clés de la porte, les clés du salut, c'est aussi lui qui donne le succès de l'Évangile, le succès au ministère, à la proclamation de l'Évangile. Un commentateur dit, si la porte est le symbole de l'opportunité de l'Église, la clé est le symbole de l'autorité de Christ. Cinquième mot sur la feuille. Si le succès de l'Évangile ne vient que par le Seigneur Jésus-Christ, alors nous devons proclamer son Évangile et pas un autre message imaginé par l'homme, c'est l'évangile de Jésus-Christ que nous devons proclamer. Mais aussi, dans un autre sens, notre prière est de lui demander d'ouvrir des portes, d'ouvrir des opportunités, non pas, afin que nous ne nous appuyions pas sur nos méthodes, sommes tellement prompts à nous appuyer sur des méthodes, on va faire une campagne de ceci, une campagne de cela, etc. Mais notre prière devrait plutôt être, Seigneur, ouvre, ouvre les portes, ouvre les portes. Comment allons-nous toucher les milliers de gens dans notre ville? Comment allons-nous toucher dans notre région? Comment nous allons toucher les millions de notre pays? Notre prière est de nous placer devant le Seigneur en disant, d'une part, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais aussi, ouvre des portes. Ouvre des portes pour nous. On ne veut pas ressembler à l'église que nous avions vue la semaine dernière, l'église de Sardes, qui avait une réputation, mais qui n'avait aucun contenu, aucune substance, qui était connue pour certaines choses, mais qui n'avait en fait en réalité rien, qui était morte. Non, nous voulons faire la volonté de Dieu, mais nous devons nous placer devant lui et reconnaître que nous avons besoin de lui. C'est lui qui ouvre la porte, et lui seul. Et on peut voir pourquoi ce message était si excitant pour les chrétiens de l'église de Philadelphie. Au verset 8, quand après s'être révélé de cette manière, le Seigneur Jésus applique cela aux chrétiens qui sont à Philadelphie, et il dit, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, on va revenir à cela plus tard. Il dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Certains commentateurs vont dire que Jésus ici ne fait que déclarer que les chrétiens de Philadelphie peuvent savoir que leur salut est garanti parce que Jésus tient la porte ouverte pour eux afin qu'ils entrent au ciel. Nous allons voir que l'Église connaît l'opposition de la communauté juive et beaucoup de ces chrétiens étaient d'origine juive et ont été, on peut très bien le comprendre, étaient rejetés par la synagogue. La porte de la synagogue leur était fermée. Mais Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas pour cela. Parce que ce qui compte, c'est que la porte du salut, elle est sous mon autorité et elle est largement ouverte. Elle est ouverte pour vous. Et on va voir au début du chapitre 4 que la vision commence par une porte qui est ouverte dans le ciel. Donc cela est vrai. Mais en plus de cela, Jésus dit quelque chose de spécifique à cette église. Non seulement Jésus, le Seigneur Jésus garde la porte ouverte pour les chrétiens à Philadelphie, mais il garde aussi la porte ouverte pour que le témoignage de cette église soit le moyen de conduire d'autres personnes au salut. C'est une opportunité que le Seigneur Jésus crée pour le succès du ministère de l'Évangile. Et c'est donc dans ce sens que nous aussi, nous devons prier que Dieu, que le Seigneur ouvre les portes pour nous. Il est intéressant de noter que cette ville de Philadelphie, au 1er siècle, était une ville très jeune. Elle était considérée comme étant une ville ambassadrice, c'est-à-dire qu'elle avait été établie à peu près 200 ans auparavant pour répandre la culture grecque en Asie. Et nous avons dans cette jeune ville donc une église missionnaire. Et Jésus s'adresse à elle en disant, voilà, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et l'histoire montre que ce que Jésus dit ici aux croyants à Philadelphie est vrai en général de toute l'ère apostolique. Jamais été très bon en histoire, mais c'est remarquable de réaliser comment Dieu était au contrôle des événements. En fait, il a dirigé l'histoire, le cours de l'histoire pour permettre l'avancée de l'Évangile. Comment est-ce que l'Évangile s'est propagé? Pourquoi l'Évangile s'est propagé aussi rapidement? Dieu a orchestré, il a fait en sorte qu'à ce moment-là, il y ait la Pax Romana, la paix romaine, dans tout l'Empire romain, depuis l'Espagne jusqu'en Asie, dans en Asie mineure, où nous sommes, où les églises sont, il n'y avait qu'une seule administration. Il y avait des routes, un ensemble de routes. Il y avait une sécurité qui permettait le déplacement au milieu de l'Empire. Et puis il y avait une langue officielle qui était commune. Au départ, c'était le latin, mais puis progressivement, ça a été le grec, qu'on appelle le grec koiné. Et le grec koiné, c'est la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Et puis Dieu avait même dispersé les Juifs au milieu de l'Empire. Il avait même fait en sorte que l'Ancien Testament soit traduit en grec, avec les promesses de la Nouvelle Alliance, avec les idées, les ombres que nous connaissons, que nous voyons dans l'Ancien Testament. Et tout cela était connu. Et quand les apôtres ont voyagé, quand nous lisons le livre des Actes des apôtres, on voit qu'ils vont d'abord dans les communautés juives où l'Ancien Testament était connu. Et excitant de voir comment Dieu règne sur l'histoire et organise les événements. Et on peut se poser donc la question, même par rapport aux événements que nous venons de connaître, qui sont des événements terribles, qu'est-ce que ces récents événements vont apporter? Est-ce que cela va être une porte ouverte pour nous, pour parler de la différence entre les religions faites, inventées par l'homme, et la foi que Dieu donne en Jésus-Christ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cela, mais voilà, Dieu contrôle l'histoire, et il tient une porte ouverte dans un sens général, depuis la venue de Christ dans le monde, sa mort, sa résurrection, son ascension, et cette porte ouverte, elle reste ouverte jusqu'à son retour. Mais il tient aussi une porte ouverte pour cette église à Philadelphie, pour son témoignage. Et nous devons aussi prier dans ce sens, que Dieu ouvre une porte pour nous. Voilà la présentation du Seigneur Jésus-Christ. Mais ensuite, la situation de l'église, deuxième point. Jésus dit au verset 8, il dit à cette église, « Je connais tes œuvres. » Nous avons déjà entendu cette expression. Jésus l'a déjà utilisé en s'adressant à différentes églises et il y avait souvent des compliments à faire et puis aussi des reproches à faire aux différentes églises. Mais pour l'église de Philadelphie, il n'y a pas de reproche. Alors que l'église de Sardes, c'était tout le contraire, il n'y avait que des reproches. L'église de Philadelphie, il n'y a pas de reproche. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit à cette église, « Je t'appelle à témoigner et je veux que tu saches que je connais tes circonstances. » Il y a trois choses que le Seigneur Jésus-Christ dit concernant cette Église. Il dit, voici, verset 8, « Tu as peu de puissance. » Mais la faiblesse de l'Église ne doit pas être un frein à son témoignage. La faiblesse, sixième mot sur la feuille. Je sais que tu as peu de puissance. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à cette église, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et l'église va dire, oui, mais nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Mais le Seigneur veut que cette église sache que c'est la faiblesse d'une église ne doit pas empêcher son témoignage, surtout lorsque c'est le Seigneur lui-même qui ouvre la porte. On peut imaginer comment cette église était faible. On peut imaginer qu'il venait des couches basses de la société, très peu de nobles. On peut imaginer qu'ils étaient rejetés de leur famille parce qu'ils étaient d'origine juive, qu'ils avaient peu de moyens financiers, ou même qu'ils étaient peu nombreux, comme nous. Mais ces faiblesses ne doivent pas être des empêchements au témoignage de l'Évangile quand le Seigneur Jésus-Christ est celui qui ouvre la porte. Et on peut très bien s'identifier à cette Église quand on voit tout ce qui nous entoure, quand on voit le monde autour de nous, les médias, quand on voit ce qui est enseigné dans les écoles, les universités, quand on voit les actions du gouvernement, on les voit tous unis contre l'Évangile, contre la vérité. Ils nous parlent de tolérance, mais ils ne tolèrent pas l'Évangile. Toutes ces forces sont contre l'Évangile. Et bien sûr, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer pour l'Église? Ça, c'est une question à laquelle ce n'est pas à nous de chercher une réponse. Notre rôle est de poursuivre la proclamation de l'Évangile, de continuer de témoigner par nos vies, par nos paroles, de tenir ferme dans la foi, de refuser de renier le nom de Seigneur Jésus-Christ, de faire connaître ce merveilleux message du salut en Christ. Tu as peu de puissance, dit le Seigneur à cette Église, mais utilise ce que tu as. Je tiens une porte ouverte devant toi. La faiblesse de l'Église ne doit pas être un frein à son témoignage. Deuxièmement, l'opposition que l'Église connaît, septième mot sur la feuille, ne doit pas être un frein à son témoignage. On le voit au verset 9. « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » On a déjà entendu cette expression, la synagogue de Satan. C'est une manière pour Jésus de décrire la communauté juive qui ne croyait pas en lui. Et ce que les Juifs avaient fait au Seigneur Jésus, il le faisait maintenant à ses disciples, il le faisait maintenant à son Église. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait bien dit aux responsables juifs de l'époque, en Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Ces Juifs ont accusé le Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont donné, ils l'ont fait crucifier par la main des Romains. Et les Juifs à Philadelphie et d'autres endroits, nous l'avons déjà vu, agissaient de la même manière. Il y avait une opposition de la part de la communauté juive, de la part de la synagogue, contre le témoignage des chrétiens, contre l'Évangile. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit à cette Église que cela ne doit pas empêcher l'Évangile de progresser, de poursuivre et d'avancer. Encore une fois, on y retrouve une allusion à l'Ancien Testament, à Ésaïe 45, verset 14, deuxième partie du verset. Ce sont des promesses qui sont faites à Israël, et nous lisons « Les peuples se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu ». Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Et le Seigneur Jésus-Christ l'applique ici à l'Église. Ce que la synagogue de Satan, ce que les Juifs n'avaient pas réalisé, c'est que par leur incrédulité, ils s'étaient mis dans le même camp que les autres nations. Et Christ promet que ces nations vont venir se prosterner devant l'Église, devant l'Évangile qui est proclamé par la bouche des croyants et reconnaître que eux seuls connaissent Dieu, eux seuls sont aimés de Dieu. Bien sûr, en disant cela, on ne parle pas ici du rejet du peuple juif, mais au contraire, le désir, c'est que eux aussi soient sauvés. Eux aussi soient sauvés. Eux aussi connaissent le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, même si en ce moment, ils sont dans le camp de ceux qui oppressent l'Église. Mais quand les croyants font face à l'opposition, la tentation est très souvent de se dire « on va se faire discret ». Il vaut mieux plutôt reculer. On va plutôt éviter de dire des choses qui pourraient offensé. Jésus dit, faites le contraire. Jésus dit, au contraire, continuez. Continuez votre témoignage. Continuez à proclamer l'Évangile sans être odieux, mais continuez à rendre témoignage. Et ce seront vos ennemis, ceux qui aujourd'hui vous opposent, qui seront amenés à comprendre ce que vous proclamez, ce que vous vivez. Je tiens devant vous, j'ai mis devant vous une porte ouverte, même pour leur salut. Même pour leur salut, même pour le salut de ceux qui aujourd'hui vous opposent. L'exemple frappant est celui de l'apôtre Paul, bien sûr. Lui-même, persécuteur de l'Église, autrefois, Saul de Tarse, et alors qu'il accomplissait son œuvre de persécution, il a été amené à plier le genou devant le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur l'a sauvé. C'est l'œuvre du salut que le Seigneur Jésus-Christ accomplit. Même parmi ceux qui aujourd'hui opposent l'Église. Et donc l'opposition à l'Église ne doit pas être un frein à son témoignage. Mais la troisième chose qu'il dit concernant l'Église, c'est que même le jugement, huitième mot sur la feuille, le jugement de Dieu ne doit pas être... Le jugement de Dieu sur le monde ne doit pas être un frein au témoignage de l'Église. Verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » On voit que ce n'est pas une persécution locale. Jésus parle ici d'un jugement qui vient sur le monde entier. Alors bien sûr, de manière ultime, il s'agit du jugement dernier. Mais il y a aussi, et nous le savons de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Matthieu 24 par exemple, ou de l'enseignement de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, ou de l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 2, que... La persécution, le jugement, la tentation, comme il est décrit ici, finale, qui va arriver avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, est illustrée par tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre, mais ça, ce n'est pas limité au temps qui précède immédiatement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça a été depuis... toute l'histoire, pendant toute l'ère de l'Église. Et Dieu n'a cessé de juger la rébellion du monde contre lui. Cette rébellion que l'on voit dans la société, on peut relire Romains chapitre 1 par exemple, où nous lisons que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Et puis ensuite, plus loin, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Mais ça a été écrit au 1er siècle. Ça a été écrit par l'apôtre Paul au 1er siècle. C'était vrai alors, c'est encore vrai aujourd'hui. Quand on lit ces paroles, on se dit, ça a été écrit au 21e siècle. Peut-être encore plus. Mais la colère de Dieu, le jugement de Dieu se révèle et se manifeste. Mais même... quand on voit ce jugement de Dieu sur ce monde, nous devons continuer à témoigner, à proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit à cette Église, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Il ne dit pas qu'il va enlever cette Église du milieu de la tribulation, mais qu'il va la garder. Il va la garder même au milieu des moments difficiles. Parfois, on est tenté de se dire, si seulement on vivait dans une période où tout était chrétien, il n'y aurait aucune opposition, tout irait bien, à ce moment-là, on pourrait témoigner, on aurait la liberté de témoigner et de parler de l'Évangile. Jésus dit, non, c'est maintenant. C'est maintenant que nous sommes appelés à le faire. C'est maintenant qu'il faut parler de l'Évangile. C'est dans le contexte dans lequel nous vivons. Et nous devrions prier et chercher des portes ouvertes pour la proclamation de l'Évangile, en priant que Dieu et que le Seigneur Jésus bénisse son peuple qui veut lui être fidèle. Il y a quelque chose d'intéressant à souligner au sujet de Philadelphie, qui rend les paroles de Jésus encore plus remarquables. Jésus avait déjà souligné, par exemple, à l'église d'Éphèse, si elle ne se repentait pas, il allait enlever le chandelier de sa place. Apocalypse 2, verset 5. Il est celui qui se tient au milieu des chandeliers, au milieu de son église. Et il peut enlever les chandeliers d'une place pour le remettre à l'autre. Il est souverain sur toute chose, il est souverain sur l'église. Et quand on regarde la situation actuelle, on est obligé de reconnaître qu'à Éphèse et dans d'autres endroits, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus de témoignage. Il n'y a plus de chandelier. Il n'y a pas d'église à Sardes. Il n'y a plus d'église à Pergame. Mais Philadelphie est une exception. Philadelphie est une exception. Jésus dit à cette église, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. » Et à Philadelphie, qui est aujourd'hui une ville qui est en Turquie, pays musulman, il y a encore une communauté chrétienne, sans doute encore faible, comme à l'époque, comme au premier siècle, mais il y a encore une communauté chrétienne. Le Seigneur dit, voici, je vous appelle à garder ma parole, à garder la foi, à ne pas abandonner mon nom, à tenir ferme à la parole de la vérité. Et en faisant cela, vous pouvez être sûr que moi, je vous garderai. Bien sûr, certains vont demander, mais qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est la sécurité éternelle des croyants? Si nous croyons en lui, il nous garde pour toujours. Ou est-ce que c'est la persévérance des saints? C'est-à-dire que les croyants sont appelés à persévérer. Et la réponse théologique, c'est oui. Parce que les deux sont vrais. Parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Il nous garde par la foi. Neuvième mot sur la feuille. Il nous garde par une foi qui est vivante, une foi qui est vraie, une foi qui est active, une foi qui est persévérante. Pierre va le dire dans sa première lettre au chapitre 1 et dans les versets 3 à 5. Et nous lisons ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous, qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous êtes gardés par la foi. Et c'est ainsi que Dieu garde les siens, par la foi, par une foi vivante, une foi persévérante dans le Seigneur Jésus-Christ, même au milieu des difficultés, même au milieu en face de l'opposition, même dans la faiblesse, même en face des jugements de Dieu contre ce monde. La situation de l'Église. Troisièmement, les promesses du Seigneur Jésus-Christ, versets 12 et 13. Celui qui vaincra, « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'y créerai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Un des faits qui concerne la ville de Philadelphie, c'est qu'elle est construite sur une zone sismique, une zone et qui connaît des tremblements de terre. Et à plusieurs reprises, on lit dans l'histoire que la ville a subi de gros dommages à cause des tremblements de terre. Et on raconte même que les habitants ont évacué la ville parce qu'ils avaient peur que tout s'écroule et qu'ils ont vécu, qu'ils ont habité pendant une période d'environ 3 ans dans des abris provisoires à l'extérieur, tout autour de la ville, parce qu'il y avait encore des secousses qui se répétaient régulièrement. Ils vivaient dans un endroit qui manquait de stabilité physique, sur le plan physique. Et c'est un peu l'arrière-plan de la promesse que Jésus fait à cette Église. Il leur dit que si physiquement il manquait de stabilité, cela ne va pas être le cas sur le plan spirituel. Jésus promet de faire de chaque croyant persévérant et vainqueur une colonne, dixième mot sur la feuille, une colonne dans le temple de mon Dieu. Et l'idée, c'est que les croyants vont durer comme des éléments permanents et des éléments qui sont beaux dans le temple de Dieu. Une colonne qui ne sortira pas, une colonne par sa nature et par sa fonction. Ce n'est pas un meuble qu'on peut changer de place ou qu'on peut enlever. Non, je suis en train de dire, vous ferez partie intégrante du temple de mon Dieu. Et la colonne est une image de force, une image de puissance et aussi une image de beauté, quelque chose d'éclatant et quelque chose qui révèle la beauté. Et le croyant qui est vainqueur en Christ deviendra une telle colonne. Et cette Église qui était faible, par sa persévérance et par sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, deviendra une colonne forte qui ne sortira plus du temple de Dieu. Et puis il ajoute une promesse, une triple promesse concernant un nom nouveau. Tout d'abord, les croyants seront marqués du nom de Dieu, 11e mot sur la feuille. Encore une illustration de l'histoire, en l'an 17 de notre ère, la ville de Philadelphie a été entièrement détruite par un tremblement de terre. Et la ville a été reconstruite grâce à l'aide très généreuse de l'empereur Tibère. Et pour exprimer leur reconnaissance envers l'empereur, qu'ils considéraient comme étant leur sauveur, les habitants de Philadelphie ont changé le nom de la ville et ils l'ont appelée la Nouvelle Césarée, la Nouvelle Ville de César. Et Jésus reprend cela comme une analogie. Et il dit à l'Église, vous aussi, vous avez un sauveur. Vous aussi, vous avez un protecteur. Vous aussi, vous avez un Seigneur. Et on vous connaîtra par son nom. Vous serez appelés les enfants du Dieu Très-Haut. Dieu sera votre Père et il prendra sur lui l'obligation de prendre soin de ses enfants. Nous sommes adoptés dans sa famille. Nous sommes réconciliés avec lui. Nous sommes les enfants de Dieu. Deuxièmement, ils seront marqués du nom de la ville de Dieu. 12e mot sur la feuille. La ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. C'est un thème qu'on va retrouver tout au long de ce livre. Ce royaume de Dieu, c'est l'Église, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et cela est une image, encore une fois, du fait que Dieu œuvre dans l'histoire. Il va amener toutes choses au moment fixé par lui. Et il fait entrer l'Église dans ce monde. Et les croyants auront le nom de cette ville écrit sur leur front. On verra par exemple en Apocalypse 22, les versets 3 et 4, on lit ceci, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur le front. » C'est un symbole d'identité. C'est un symbole d'appartenance. C'est un symbole de loyauté. Les croyants porteront le nom de la Jérusalem céleste. Comment? Par la persévérance et la victoire en Christ. Ils seront marqués du nom de la ville de Dieu. Ils seront aussi marqués, troisièmement, du nouveau nom de Jésus, 13e mot sur la feuille. Quel est ce nouveau nom? Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est un nom qui parle de son accomplissement. C'est le nom de sa victoire, le nom de sa conquête. Nous sommes vainqueurs en tenant fermement à lui, sans abandonner, sans détourner, persévérant dans la foi. Et son nom est écrit sur nous. Nous sommes son peuple et nous ne vivons que pour sa gloire. Celui qui dit ces paroles, c'est le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ qui règne, comme nous l'avons déjà souligné. Il règne aujourd'hui même. Même si certains aujourd'hui se moquent de lui, il est souverain sur toute chose et il fait avancer l'histoire pour l'amener à son terme. Et il s'adresse à l'Église aujourd'hui. Il l'appelle à être ses témoins. Il l'appelle à proclamer l'Évangile. Non pas comme Sardes qui avait une réputation mais sans substance, mais annoncer la parole, la sagesse de Dieu en Christ. En lui demandant d'ouvrir les portes. Pour que le témoignage, notre témoignage, puisse rayonner et que lui fasse son œuvre dans les cœurs. Nous ne cherchons pas un succès humain. Nous ne cherchons pas un succès comme les hommes décrivent le succès. Mais nous voulons faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ avec, à sa manière. Et il faut que ce soit lui qui ouvre les portes. Mais remarquez ce que dit le Seigneur Jésus-Christ à cette église à Philadelphie. Il le dit, remarquez le temps, « J'ai mis devant toi ». C'est quelque chose qui a été fait, mais avec des effets qui sont encore présents. Et c'est vrai, sur le plan général, le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour les péchés de son peuple. Et c'est là qu'il a ouvert la porte de la proclamation de son évangile pour toute cette ère de l'évangile, cette période de l'Église entre son ascension et son retour. Quand il a déclaré que tout est accompli, l'œuvre est terminée, les pécheurs sont réconciliés avec Christ. Maintenant, l'évangile peut être proclamé, la bonne nouvelle peut être proclamée, l'invitation peut être annoncée, peut être lancée de venir à Christ. Mais c'est vrai, si au plan général, c'est aussi vrai sur un plan local. Il, parfois, dans l'histoire, et nous espérons, il va le faire encore, il a visité son église sur le plan local, il a provoqué des réveils de son peuple et appelé des foules à venir. Mais dans l'ensemble général, la porte... à cause de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. La porte est encore ouverte aujourd'hui. Et nous l'avons vu avec les enfants il y a quelques semaines, c'est la porte qui est étroite. Mais elle est encore ouverte. Elle est encore ouverte. La porte du salut est encore ouverte. On aime bien les portes ouvertes. C'est le symbole d'une opportunité. 14e mot sur la feuille, et nous avons aujourd'hui la plus grande opportunité qui soit, l'opportunité de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Cela nous amène à poser deux questions. Tout d'abord, est-ce que nous avons saisi cette opportunité? Est-ce que nous sommes entrés par cette porte? Mais la deuxième question est, et l'image est assez forte, comment saisir cette opportunité? L'image est claire, la porte est ouverte. Entrons par la porte. Entrons par la porte. C'est par la foi en Jésus-Christ, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en reconnaissant que l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie est une œuvre qui est parfaite, entièrement suffisante pour nous réconcilier avec Dieu et pour satisfaire la justice de Dieu. C'est en venant à Christ qui est la porte. C'est en entrant par lui que nous entrons dans le royaume de Dieu. Mais il y a un avertissement. Nous avons dit au début que Jésus déclare qu'il est celui qui a la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Mais quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Il y a un temps où la porte sera fermée, comme ça a été le cas au jour de Noé. Noé n'a cessé d'annoncer, de proclamer l'évangile tant que la porte était ouverte. Mais une fois que tous les animaux étaient rentrés, Dieu a fermé la porte. Et un jour, l'évangile ne sera plus annoncé. L'opportunité du salut n'existera plus. Ça peut être au jour de notre mort, si nous n'avons pas cru dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous ne sommes pas venus entrer par cette porte, par la foi en Christ, il n'y aura pas de seconde chance. La porte sera fermée. Mais il y a aussi la réalité du retour du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même, « Je viens bientôt ». Quand il reviendra, il n'y aura plus d'opportunité. La porte sera fermée. Il est donc urgent de saisir cette opportunité qui est devant nous aujourd'hui. Nous avons des mises en garde. Relisez chez vous, par exemple, ce passage en Hébreux 3, à partir du verset 7. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Mais aussi pour l'Église, cela veut dire qu'il y a une urgence pour nous de continuer à témoigner, à proclamer l'Évangile tant que la porte est ouverte. De pouvoir dire, comme Paul en 2 Corinthiens 6 et la deuxième partie du verset 2, « Voici maintenant, 14e mot sur la feuille, maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et quatrième point pour terminer, la dernière instruction que le Seigneur donne à cette Église. Nous voyons au verset 11, il dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Quand on parle de vaincre, de persévérer, d'endurer, parfois on peut devenir un peu nerveux quand il s'agit, quand on entend ces termes. Mais rappelez-vous de celui qui agit. C'est Jésus qui dit, 15e mot sur la feuille, c'est moi qui ai ouvert la porte. C'est moi qui vous garde. C'est moi qui vous sauve. Le message de l'Évangile, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit aussi, je vous connais. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de puissance. Je sais que vous devez faire face à l'opposition grandissante. Je sais que vous vivez dans une époque où tout se casse la figure, où le jugement de Dieu s'exerce de plus en plus. Mais je vous garderai. Votre foi en moi est l'évidence que je vous ai déjà sauvé. Que je vous ai donné cette vie nouvelle, que je vous ai donné cette foi. Le salut est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit une chose à l'Église. Ayant reçu ce don de la foi, et après avoir cru dans l'Évangile et dans le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit ceci. Retiens. 16e mot sur la feuille. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Ne pas le renier, ne pas abandonner. Nous sommes dans cet âge où le blé et l'ivraie poussent ensemble. Il y a ce conflit spirituel, il y a des guerres, des rumeurs de guerre, il y a les jugements de Dieu, et parfois on se dit c'est trop pour nous. On a vu ces derniers jours des choses terribles. Et on peut se poser la question, avec le monde, où va-t-on? Mais Dieu nous appelle à tenir ferme. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à tenir ferme à sa parole, à ne pas abandonner cette parole pour des instructions, pour des doctrines humaines, mais à croire cette parole et à la vivre. Ne pas abandonner le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul nom par lequel nous devons être sauvés. Ne pas abandonner notre témoignage, à la fois par la manière dont nous vivons et par nos paroles. Être des lumières dans un monde de ténèbres. Et Jésus nous rappelle qu'il vient bientôt, 17e mot sur la feuille. Et avec son aide, nous allons persévérer jusqu'à la fin et personne ne pourra prendre la couronne de la vie éternelle. Comme Paul le dit en 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Non seulement à moi, dit Paul, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que Dieu donc nous aide, qu'il nous aide à le prier, à le demander d'ouvrir des portes localement. Aujourd'hui, sur le plan général, oui, c'est encore l'opportunité d'annoncer l'Évangile, mais qu'il ouvre des portes localement, qu'il nous aide dans notre témoignage, que nous puissions voir sa main à l'œuvre dans cette ville dans laquelle il nous a placés. Qu'il nous donne aussi la force de persévérer dans notre faiblesse, qui nous garde fidèles dans la proclamation de sa parole, dans une foi véritable, vécue, une foi qui s'accroche au Seigneur Jésus-Christ et qui nous fasse aussi nous réjouir dans les merveilleuses promesses que nous avons, ces promesses qu'il nous accorde en Christ. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole et à la vivre pour sa gloire. Amen.